France Inter, 7h30. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la fin d'un périple infernal pour des migrants africains sauvés par des humanitaires en Méditerranée. Ils sont arrivés enfin hier en France. Entre émerveillement et peur de la solitude, reportage à suivre. Retour ce matin également dans le Bas-Rhin, marqué encore hier par la profanation d'un cimetière juif. Un acte loin d'être isolé ces dernières décennies, comme on le verra. Dans l'actualité également aujourd'hui, de l'Élysée à la casse-prison, Alexandre Benalla incarcéré hier soir pour ne pas avoir respecté les règles de son contrôle judiciaire. L'affaire Benalla qui sera aussi au menu du Sénat aujourd'hui. La commission d'enquête rend son rapport. Un appel d'urgence des artisans et des associations pour booster la mise en chantier des habitations. Et les Lyonnais, c'est du foot, toujours en vie et qui tiennent tête au Barça 0-0. On y revient en fin de journal.
À 7h50, au micro de Léa Salamé, hommage à Karl Lagerfeld avec trois invités, Inès de la Fressange, Anna Mouglalis et Mademoiselle Agnès.
France Inter.
Après deux semaines passées en mer, Sébastien, bloqués au large de l'Italie, ils viennent se réfugier en France.
Ils sont au nombre de six Africains arrivés hier à Roissy. Après un calvaire de plusieurs mois, ils font partie de cette cinquantaine de migrants sauvés en Méditerranée in extremis par un bateau humanitaire allemand, le Sea-Watch 3, et répartis ensuite dans sept pays européens différents. C'était en janvier dernier. Une partie de ces demandeurs d'asile épuisés ont donc atterri en France hier à l'aéroport Charles de Gaulle, direction Vierzon, dans un centre où leur cas sera examiné. Notre reporter Mathilde Dehémy a pu suivre leurs premiers pas.
Les dernières formalités de police sont derrière eux, les yeux hagards, encore sonnés par le vol.
Bonne route.
Les six Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens et Soudanais suivent une agent de l'Office de l'immigration et de l'intégration dans un minibus. Premier, large sourire d'Ibrahim dans les embouteillages.
Des belles voitures, des belles motos, c'est la vie française. On va s'habituer, s'intégrer dans la société. C'est la fierté. Je suis à Paris. Je suis libre d'expression.
Libre d'expression. Dans la voiture, on discute de laïcité, de parité aussi.
Il y a la loi, il y a la démocratie.
La France n'a jamais été leur but. Ils ont vécu 2 ans, 4 ans en Libye, raconte la violence. Les kilomètres qui défilent aident à effacer les idées sombres, dit Fofana.
Ils sont en train de me décharger de la tête. C'est que je vais vite oublier facilement.
Le groupe découvre sa destination.
Vierzon.
Ah bah, super.
Je vous promets que je n'oublierai jamais.
Marion Delofi les guide.
Oui. Vous allez vous installer, vous allez être reçu prochainement afin de poursuivre les démarches liées à votre demande d'asile.
Ismaël, 20 ans de Casamance, s'inquiète de devoir une nouvelle fois raconter son histoire. Ils m'ont tout pris. Je suis tout seul, sans but, répète-t-il en boucle.
Jusqu'à maintenant, je suis seul. Rien devant, rien derrière.
Ismaël demande s'il pourra voir un psy en arrivant. Sania, lui, n'a pas dit un mot du voyage, pris dans le vertige de débuter une nouvelle vie à Vierzon.
Mathilde Dehémy, sachez que le dossier de ces 6 migrants ont été présélectionnés en amont par l'OFPRA, qui devrait donc leur permettre d'obtenir le statut de réfugié ou une protection subsidiaire à suivre.
Il est 7h33, des actes forts contre l'antisémitisme.
C'est ce qu'a promis hier le chef de l'État. Il doit prendre ce soir la parole au traditionnel dîner du CRIF, une prise de parole très attendue au lendemain des rassemblements organisé dans toute la France à l'appel des partis politiques et au lendemain de cette nouvelle profanation de cimetière juif à Katzenheim dans le Bas-Rhin. 80 tombes marquées d'une croix gammée, une enquête est en cours. Le Bas-Rhin, un département où l'antisémitisme connaît régulièrement des flambées. Une dizaine de profanations ont ainsi eu lieu ces 30 dernières années. Delphine Evenou.
C'était il y a 2 mois, à 30 km de Katzenheim, quelques heures avant l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. 37 tombes du cimetière juif d'Erlisheim sont recouvertes de graffitis antisémites. Le monument des martyrs de la Shoah n'est pas épargné. Mais la commune la plus marquée, c'est sans doute celle de Sarre-Union. La mairie ne veut plus jamais évoquer la question pour oublier. 60 stèles vandalisées en 88, 54 en 2001 et surtout février 2015. La plupart des 400 pierres tombales israélites sont saccagées à coups de masse.
Des stèles renversées, brisées, des sépultures parfois même ouvertes.
Au petit matin, ce cimetière juif ressemble à un champ de ruines.
5 adolescents du coin seront condamnés 2 ans plus tard à des peines de prison avec sursis. Au début des années 2010, c'est un trio de skinheads qui s'en était pris à des cimetières des environs de Strasbourg. Croix gammée, Judenhaus, juif dehors, inscrit. Ils écoperont de 12 à 18 mois de prison ferme. Mais les enquêtes n'aboutissent pas toujours. Brumath, en 2004.
À l'intérieur, les gendarmes poursuivent leurs investigations sur les 92 tombes profanées, marquées aujourd'hui par des symboles nazis.
Croix gammée encore et inscription satanique à Saverne la même année. Weiterswiller ou Gerstheim avant cela, les auteurs n'ont jamais été retrouvés.
Plus dure sera la chute. Première nuit derrière les barreaux pour Alexandre Benalla, la prison de la santé. Le juge des libertés de la détention a estimé que l'ex-chargé de mission de l'Élysée avait rompu son contrôle judiciaire. Décision qui intervient au moment même où la commission d'enquête, on le disait, du Sénat doit rendre son rapport ce matin à 11h. Christophe de Tinger, lui, devrait retrouver la semi-liberté aujourd'hui. Le boxeur des Gilets jaunes a été condamné, on le sait, à 1 an de prison ferme, mais avec la possibilité d'une peine aménagée. Il travaillera donc librement la journée et dormira le soir en prison. Quand le bâtiment va, on connaît la maxime, et bien là, il ne va pas. Le nombre de permis de construire a fortement ralenti l'an dernier, moins 7,6%. Cette année s'annonce encore très mal, alors que la demande de logement ne cesse de croître. Résultat, un collectif très atypique lance aujourd'hui un cri d'alarme, un attelage inédit rassemblant des élus, des artisans, mais aussi des associations comme la Fondation Abbé Pierre, et qui s'apprête donc à lancer un appel commun pour une relance de la construction. Claire Chaudière.
Collectivités, fédérations du bâtiment, bailleurs sociaux et associations, on ne les avait pas vus interpeller le gouvernement et tenter de peser ensemble dans le débat public depuis la campagne présidentielle de 2012. Configuration relativement inédite donc.
C'est quelque chose effectivement qui n'est pas très très fréquent.
Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre.
Le logement présente un certain nombre de signaux assez préoccupants. Je pense à la baisse de la construction. Les plus grosses baisses budgétaires ministérielles qu'il y a pu y avoir, c'est sur le poste logement. En 2020, c'est 4 milliards d'euros en moins sur le budget du logement.
Il faut donc revoir les prévisions. Un plan de relance est même nécessaire, estiment les acteurs du secteur, pour éviter que le ralentissement ne se transforme en trou d'air avec des conséquences à la fois sur les ménages et sur l'emploi, prévient Jacques Chanu à la tête de la Fédération du bâtiment.
Par exemple, un logement construit, c'est 2 emplois créés. Pourquoi on se retrouve tous maintenant? C'est parce que ça se joue maintenant. Plus on attendra, plus ça sera difficile de relancer la machine en termes de vente. Plus qu'un coup de gueule, c'est un cri d'espoir.
Espoir que le logement sorte gagnant des arbitrages budgétaires qui suivront forcément le grand débat national, mais surtout éviter à tout prix qu'il ne soit encore plus fragilisé sur la liste des postes budgétaires amenés à subir de nouvelles économies.
Claire Chaudière, 440 personnes évacuées cette nuit en Savoie dans la station des Arcs 1800 après 3 départs de feu. Il n'y a pas eu de blessés. Il s'agit très probablement d'incendies volontaires selon le maire de Bourg-Saint-Maurice. Quand l'haleine permet de mieux diagnostiquer les cancers, on connaît les analyses d'urine, de sang, et si l'air qu'on expire pouvait nous dire aussi tout un tas de choses sur notre état de santé. C'est le pari que fait en ce moment une équipe de l'hôpital Foch à Suresnes. Il vient de lancer plusieurs essais cliniques pour vérifier si dans certaines maladies pulmonaires comme le cancer par exemple, l'analyse du souffle pourrait permettre de suivre l'évolution d'un patient. Véronique Julia.
C'est une machine en apparence toute simple. Le patient souffle dans un embout et aussitôt des courbes apparaissent sur un écran.
La machine, c'est un spectromètre de masse, c'est-à-dire un instrument qui mesure la masse des composés présents dans l'air exhalé.
Pendant des mois, les patients traités ici par immunothérapie pour un cancer du poumon vont souffler dans cette machine tous les 15 jours. Objectif, analyser les composés organiques qu'ils rejettent et voir s'ils évoluent. Les poumons sont une éponge de tout ce qui se passe dans notre organisme. Si le traitement marche et détruit la tumeur comme on l'espère, ça pourrait donc se lire dans l'air qu'on expire. Philippe Devilliers est pharmacologue.
Notre postulat, c'est que si le traitement fonctionne, les cellules tumorales vont être agressées, on va modifier leur métabolisme et par conséquent, on va avoir la traduction de l'effet du traitement dans l'air exhalé.
L'essai en cours doit vérifier si ça fonctionne, mais si c'est le cas, ça ouvrira de sacrées perspectives. Louis-Jean Coudert est le chef du service de pneumologie. Il espère avec cette méthode pouvoir identifier plus vite qu'aujourd'hui si un patient répond ou pas à son traitement. On gagnerait ainsi en efficacité et en qualité de vie.
l'idée est de ne pas prolonger un traitement ayant des effets secondaires et potentiellement inefficaces. Ça rajoute une technique de surveillance qui devrait être plus précoce que les techniques d'imagerie.
D'autres essais sont en cours pour suivre des patients souffrant d'asthme sévère et voir comment ils réagissent à certains traitements innovants, pour suivre aussi des transplantés et vérifier qu'ils ne font pas de rejet.
Véronique Julia, bataille judiciaire en perspective sur le climat. Les 4 ONG à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, cette pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures, eh bien ces ONG ne sont pas satisfaites de la réponse du gouvernement. Elles déposeront leur recours en justice contre l'État pour inaction climatique le 14 mars prochain. Allez, on termine avec du sport et ce soulagement des Lyonnais qui ont neutralisé l'ogre du Barça. On craignait que Messi ne fasse qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais pour ce match aller des 8e de finale de Ligue des Champions. Eh bien, les Barcelonais ont été maladroits et les Lyonnais courageux, score final 0-0, en espoir subsiste. Guillaume Batin.
0-0, c'est un bon résultat pour les Lyonnais qui n'étaient pas favoris, même si le gardien Anthony Lopez, excellent hier soir, voyait bien plus haut.
C'est un bon résultat, oui et non. On aurait préféré gagner, mettre ce but qui nous a permis d'y croire encore plus, même si là on y croit beaucoup, mais voilà, on sait que ce sera compliqué d'aller là-bas et d'aller se qualifier, mais tout est possible.
Et le défenseur Léo Dubois se verrait bien offrir le but de la qualification aux Lyonnais dans 3 semaines.
L'espoir est encore là, si on n'y croit pas maintenant, on n'y croira jamais, même si on sait que ça va être compliqué, mais je signe au match retour pour pouvoir marquer un but et on passe au prochain tour, donc ça sera très bien.
Même si Lyon n'est pas passé loin de la catastrophe en fin de rencontre, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio ne regarde que le tableau d'affichage.
On n'a pas encaissé de but, on tient tête au grand Barça. Et face à un tel adversaire, c'est déjà une bonne chose parce que tout est permis au retour. Surtout qu'on aura un atout majeur en plus en la personne de Nabil.
Nabil Fekir, le capitaine lyonnais, suspendu hier soir. Il retrouvera ses coéquipiers au Camp Nou pour réaliser l'exploit. Cela fait près de 10 ans que Lyon n'a plus atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. À Lyon, Guillaume Batin, France Inter.
Et puis autre résultat, je sais que vous brûlez d'impatience, Nicolas. Liverpool a été tenu en échec hier par le Bayern, 0 partout également.
Merci Sébastien Legénie.